De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous aurions pu voir Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui n'a d'ailleurs pas de mauvaises critiques, hein, mais nous avons fait l'impasse, nous n'avons pas pu voir si Beale Street pouvait parler du talentueux réalisateur de Moonlight, mais on a vu un autre film d'un réalisateur afro-américain qui devrait plaire, et puis eh bien, d'autres choses, Manu.
Eh bien oui, moi j'ai vu Skate Kitchen, un premier film d'une jeune réalisatrice, puis aussi La Mule de Clint Eastwood, et enfin Le Château de Cagliostro qui ressort de Hayao Miyazaki.
Et le dernier film de Clint Eastwood nous donnera l'occasion de jouer un blind test sonore spécial Clint Eastwood. 5 extraits et 5 titres du grand réalisateur américain à découvrir. Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai de The Place de Paolo Genovese. On parlera aussi eh bien, de Roma, le film de Alfonso Cuarón qui est diffusé gratuitement dans certains cinémas en France. Un film produit par Netflix. Mais on commence par Sorry to Bother You de Boots Riley.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Hilarant, fantaisiste, satirique, anticapitaliste primaire, voilà comment on pourrait qualifier Sorry to Bother You, désolé de vous déranger, hein, traduction, un film salvateur réalisé par Boots Riley qui n'a rien d'un réalisateur puisqu'il est avant tout musicien, chanteur du groupe de funk, punk et hip-hop de Coop, et on s'en écoute d'ailleurs une rasade. They own the judges and we got the proof. We got hella people, they got helicopters, they got the bombs and we got the guillotine. We got the guillotine, you better run. Cette musique du groupe compose l'essentiel de la bande son du film. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant, hein, car Boots Riley a entrepris d'écrire un album entier, suivi d'une tournée, pour financer une partie du film. Il s'est acharné, hein, le bougre, et à la faveur eh bien, d'une résidence d'écriture, d'un coup de pouce du festival Sundance, le film a pu voir le jour. Le point de départ du scénario de Sorry to Bother You est un morceau du groupe sorti en septembre 2001. Dans ce morceau, eh bien, le musicien devenu réalisateur imagine un démarcheur téléphonique qui se retrouve à vendre des esclaves pour le compte d'une entreprise qui a le vent en poupe. Alors le scénario du film a quelque peu évolué, mais on n'en est pas si loin. On suit Cassius Green, un jeune afro-américain en mal de boulot qui décroche un travail dans le télémarketing. Alors si les débuts sont difficiles, eh bien, très vite Cassius va pouvoir gravir non pas les échelons, mais un échelon, car dans son entreprise il n'y a que 2 étages, et parce qu'il a été bien regardé par Danny Glover pour parler au téléphone et pas se faire raccrocher, eh bien le voilà qui prend une voix de blanc pour s'imposer dans les foyers américains. Imparable et démonstration donc avec Danny Glover.
Hey Mr. Kramer, this is Langston from Regal View.
Voilà, donc c'est Danny Glover qui dit qu'il faut pas parler comme Will Smith, mais voilà, et prendre la voix d'un blanc américain. Cassius a mis le doigt sur quelque chose, super doué, super vendeur, il pourrait devenir presque super riche. Et pendant que Cassius a changé de classe, eh bien ses collègues, eux, font le piquet de grève et réclament des meilleures conditions de travail et le partage de richesses. Chaque matin, pour aller au travail, Cassius est d'ailleurs escorté par des gardes mobiles, donc des CRS, qui fendent la foule. Alors, tout un programme. Hein. Une fois à son travail, il œuvre pour une entreprise qui s'appelle Worry Free, soit sans souci. Et son programme, eh bien, c'est améliorer la cadence et les profits par de nouveaux moyens. Quoi de mieux pour assurer la productivité que de loger les travailleurs dans des dortoirs sur leur lieu de travail? À sa tête, un grand blanc et beau cocaïnomane qui a des projets pour Cassius, mais celui-ci eh bien, commence à sérieusement douter de ses actes et de ses envies. Et avec ça, en se plaçant du côté de ceux qui asservissent et marchandisent le vivant, eh bien, il s'est fait plaquer par sa copine, une irrésistible artiste activiste. Voilà donc le programme de Sorry to Bother You, une comédie de blaxploitation qui, comme je l'ai lu, eh bien, prend Spike Lee par la gauche. Il faut dire que le réalisateur est ouvertement communiste au pays de Trump. Mais la réussite de Sorry to Bother You tient à sa légèreté malgré la charge et la lourdeur de son sujet. Le réalisateur épingle avec facilité les programmes de télévision débiles, la culture du buzz, la Startup Nation qui éloigne les hommes. Mais il le fait avec une inventivité et drôlerie, en puisant d'ailleurs quelques idées chez Michel Gondry, notamment avec le Do It Yourself. Alors, Boots Riley n'hésite pas à déployer une critique à contre-courant de tout ce qu'on a l'habitude de voir. S'il y parvient, eh bien, cela tient sans doute à sa personnalité, son combat politique et artistique. Et c'est aussi parce que la comédie puise dans l'absurde, la fantaisie, tout en brassant la culture pop à grand renfort de belles idées visuelles. Le passage par le clip vidéo a sûrement aidé le chanteur-réalisateur. Il a su rester talentueux tout de même, sans multiplier les effets. C'est quand même difficile, à mon sens, de s'ennuyer à la vision de Sorry to Bother You, qui jouit d'un rythme, d'une décontraction et d'une intelligence qui le rend profondément appréciable, pour ne pas dire jouissif. Voilà, ça c'était le premier film américain. Il est à découvrir en salle depuis le 30 janvier, tout comme un film sur une skateuse.
Des skateuses, plusieurs femme. D'ailleurs.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Adolescente solitaire et introvertie, Camille vit à New York avec sa mère. Donc sa passion, le skateboard, au grand désarroi justement de sa mère pour des raisons de santé. En effet, un accident bête va amener Camille à se faire recoudre. Mais la jeune fille n'en fait qu'à sa tête. Elle va rencontrer un groupe de skateuses appelé les Skate Kitchen. Alors cette petite bande et prise de liberté va avoir une influence capitale sur Camille qui va s'ouvrir au plaisir de la vie entre drogue, sexe, et puis les soirées entre filles, et puis enfin les journées à pratiquer leur sport favori. Alors les Skate Kitchen existent vraiment. Les jeunes actrices, qui sont les squatteuses d'origine, débutantes, sont d'un naturel édifiant. Une complicité évidente s'impose dans leurs échanges, laissant une part belle à l'improvisation. C'est sans doute cet aspect qui convainc le plus dans ce tout petit film, qui est loin d'égaler ses modèles, à savoir Kids de Larry Clark et surtout Paranoid Park de Gus Van Sant. Alors Skate Kitchen, un premier long métrage de Crystal Moselle, souffre de son élaboration, soit son matériau d'origine, un court métrage qui a été primé dans plusieurs festivals indés. Alors, ce qui devait passer très bien en une vingtaine de minutes devient laborieux sur la longueur, la réalisatrice peinant à donner de l'élan à son projet. Alors, passer un début prometteur, dessinant un personnage attachant, loin de certaines caricatures, une adolescente en construction, alors timide mais volontaire, jolie et ingrate en même temps, féminine et garçonne. Le film se délite progressivement faute d'enjeux dramaturgiques. Cette chronique sociale sur la jeunesse new-yorkaise finit par brasser du vent malgré son capital de sympathie. L'absence de point de vue s'avère problématique. La mise en scène alterne, on va dire, un filmage semi-documentaire avec caméra à l'épaule et puis des échappées un peu séduisantes, un peu toutes les 5 minutes comme un clip vidéo sur fond de hip-hop. Alors on a l'impression d'avoir déjà vu ça dans 50 films indépendants américains de ces dernières années. Alors Skate Kitchen décrit sans style le quotidien de ces jeunes filles anticonformistes vivant dans un univers marginal. Au bout de 30 minutes, soyons honnêtes, il ne se passe plus grand-chose d'intéressant. Alors Crystal Moselle braque sa caméra sur ses filles dans des soirées, en train de fumer des joints, en train de se séduire. Puis elle invente des histoires d'amitié, des coucheries totalement artificielles. Le plus décevant concerne sans doute les séquences où ces jeunes s'adonnent à la pratique du skate. Elles ne procurent aucune fascination ni émotion, engoncées dans, on va dire, une certaine platitude filmique entre les accélérés, les ralentis, rappelant davantage une pub pour Nike que la beauté esthétique du merveilleux film de Gus Van Sant. Alors voilà, un film qui propose rien de neuf, qui peut intéresser, je dirais, un public d'ados.
De skateurs.
Voilà, de skateurs, mais surtout ados. Passé 16 ans, le film finit par devenir assez ennuyeux.
Et il est projeté dans très peu de salles en France, mais il est dans ces salles depuis le 30 janvier. On parle maintenant d'un film qui n'aurait pas dû être dans les salles.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Coup de tonnerre dans le monde du 7e art quand à la fin de l'été, Roma d'Alfonso Cuarón a remporté le Grand Prix à Venise, une chose impossible à Cannes, car ce film du réalisateur mexicain a été produit par Netflix. Il n'est plus considéré comme un film de cinéma, mais un film de télévision par certains. Et bien pourtant, il est visible en salle à Marseille, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux et La Ciotat notamment, pour des séances exceptionnelles. Arnaud Clapier, qui a accepté la projection gratuite du film d'Alfonso Cuarón dans le cinéma Utopia de Montpellier, nous raconte pourquoi.
Ce qui s'est passé principalement, c'est qu'un festival de Marseille qui travaille sur le cinéma latino-américain a proposé à une association franco-mexicaine de Montpellier d'organiser cette projection, puisque eux avaient le droit de le faire sur Marseille, qu'ils avaient envie de le décliner sur Montpellier, que ça nous a été proposé et que dans un cadre, alors pour le coup, juridique très précis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une séance de cinéma au sens traditionnel du terme, il n'y a pas de billetterie, c'est une entrée gratuite. Toutes ces conditions font qu'il n'y a aucune raison de ne pas proposer ce film sur grand écran.
Avec ce petit plaisir supplémentaire pour Arnaud Clapier qu'Alfonso Cuarón, sans doute pour justifier son choix d'être produit par Netflix, a estimé que peu de spectateurs allaient voir des films noirs et blancs au cinéma. Bon, ce qui peut paraître osé, mais une fois alors qu'un cinéma accepte de diffuser un film Netflix, donc sans billetterie car sans visa d'exploitation, comment rentabiliser la séance Netflix à son intérêt ?
Il est évident que c'est une opération promotionnelle de Netflix qui se blanchit comme ça à relativement peu de frais. Hein. C'est eux qui payent les séances. Voilà, c'est Netflix qui invite en fait hein, sur ces projections.
Alors on a envie de dire, profitons-en. Pour Arnaud Clapier du réseau Utopia, il faudrait bouleverser la chronologie des médias qui empêche les allées et venues des productions cinématographiques et télévisuelles. Si cette chronologie a été bouleversée en décembre dernier avec Canal+, hein, autorisé à diffuser Taxi 5 seulement 6 mois après sa sortie en salle, eh bien Netflix, lui, qui devait attendre 36 mois auparavant, pourrait voir passer ce délai à 17, voire à 15 mois. Mais ce qui reste quand même un gouffre.
Ce dont on a envie, ce qui nous paraît très normal, c'est qu'un film, à partir du moment où son propos et sa forme le justifient, puissent être projetés en salle dans des conditions normales, avec un numéro de visa, avec une billetterie tout à fait normale et une remontée de recettes normale. Après, j'ai du mal à ne pas comprendre la situation d'un producteur de films comme Netflix, c'est que effectivement, eux, si leur film sortait au cinéma, ils devraient attendre 36 mois pour pouvoir le proposer sur leur plateforme. C'est évident que pour quelqu'un qui finance le film, c'est pas acceptable.
Alors Arnaud Clapier, hein, le responsable du cinéma Utopia de Montpellier, nous a expliqué hors micro que la projection d'un film Netflix a surtout posé problème aux distributeurs français plus qu'à à ses confrères dans les salles qui, au contraire, eux ont cherché aussi des moyens à faire des projections. En fait, hein. Le responsable de salles serait, lui, favorable à voir entrer les films Netflix dans le réseau des salles françaises. Leur audience permettrait eh bien, le financement du cinéma français.
Nous, ce qui nous importe, malgré tout, c'est qu'à un moment ou à un autre, toute projection qui a lieu dans nos salles participe au financement vertueux du cinéma, de la chaîne du cinéma en France. Et ce qui aurait été parfait, c'est qu'un film comme Roma puisse intégrer tout à fait normalement une exploitation et puisse bah, verser son obol aussi à l'industrie du cinéma en France, quoi.
Voilà, donc cherchez à savoir eh bien, si ce film Roma d'Alfonso Cuarón passe dans votre cinéma. C'est tout à fait possible et donc, on le répète, c'est Netflix qui paye. Allez, maintenant, on essaie de voir eh bien, si Eastwood va raccrocher comme son personnage.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
J'ai été un père lamentable. Un mari lamentable. J'ai tout gâché. Je ne méritais aucun pardon. C'est la dernière fois. Je le jure devant Dieu. C'est la dernière fois. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette.
Bah au moins, Clint Eastwood n'est pas un cinéaste lamentable, hein, ça on peut le dire, hein, même si certains de ses films précédents pouvaient éventuellement semer le doute. Alors qu'attendre d'un nouveau Eastwood, hein, donc après quelques déconvenues artistiques comme American Sniper justement et 15h17 à Paris, deux véhicules hein, patriotiques hein, purement destinés à un public américain. Pas grand-chose au fond, sinon le plaisir de revoir peut-être pour un dernier tour l'artiste devant l'écran, alors âgé de 88 ans. La Mule est par ailleurs une commande, un film au départ destiné au réalisateur de Bienvenue à Zombieland, qui a fait un bien mauvais choix en allant commettre l'immonde Venom. Donc devant et derrière la caméra, Eastwood revient pour une œuvre qui ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices, certains allant même jusqu'à fustiger un gâtisme avancé. Et miracle, La Mule est sans aucun doute l'un de ses plus beaux films. Une œuvre à la fois apaisée et douce, progressiste et réactionnaire, ironique et sentimentale, sorte de synthèse magnifique de toutes les contradictions d'un cinéaste qui a toujours su cultiver l'art de l'ambiguïté avec une certaine classe. Alors il incarne Earl Stone, un vieil homme hein, qui a délaissé sa famille pour son travail. La faillite de son entreprise le laisse sans rien, bilan d'une vie égoïste et sans attache. Il accepte alors un travail routinier, faire le chauffeur pour des trafiquants de drogue. Il devient alors le passeur pour le cartel mexicain, sans le savoir au départ. Il est alors ce qu'on appelle une mule extrêmement efficace qui attire l'attention du FBI, en l'occurrence de l'agent Colin Betts.
Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison. Je ne méritais aucun pardon.
Alors, inspiré d'une histoire vraie, ça peut paraître invraisemblable comme ça quand on voit le film, hein. Le scénario n'a rien non plus de particulièrement excitant, hein, si ce n'est la curiosité de voir un papy inoffensif côtoyer les plus dangereux criminels immigrés du sud des États-Unis. Alors, mais dès les premières minutes, une alchimie se produit. En 10 minutes, Eastwood pose les bases du récit avec une économie de moyens et une aisance, sans avoir recours à un montage speed. Il va à l'essentiel tout en prenant son temps, croquant au passage une Amérique pétrie de paradoxes, symbolisée en premier lieu par ce vieil homme bourru, à la fois raciste mais étrangement tolérant, qui accomplit un dernier voyage sans retour. Alors ce road movie iconoclaste séduit par son style débonnaire, cette manière unique d'évoquer des choses profondes en évitant de verser dans le pathos, une ironie mordante traverse ce faux thriller qui est avant tout le parcours introspectif d'un homme qui a à la fois profité de sa vie égoïstement mais qui en même temps est passé à côté de l'essentiel, sa famille. Alors toute la première partie est un modèle d'équilibre, hein, décrivant une Amérique hétéroclite, hein, confrontée à ses démons. On pouvait craindre un discours un peu droitier sur le passage, notamment d'une frontière à une autre, sur la description des Mexicains. Or, il n'en est rien. Estoud ne juge pas, hein, se contente de filmer le dernier acte d'un homme qui accepte une mission à la fois cocasse et périlleuse. Lorsque Carl Jones rencontre le parrain de la drogue incarné par un Andy Garcia méconnaissable, il évite même les raccourcis spectaculaires et moralisateurs, préférant jouir de cette situation assez comique, hein, ce qui nous vaut des séquences vraiment drôles. Hein, lorsque Jones se retrouve dans une chambre avec des call girls, notamment, à 88 ans, il se demande s'il ne faut pas qu'il appelle un médecin avant. Alors le film montre un homme qui décide finalement de tirer parti de la situation, de continuer à jouir de sa vie, même si au fond la fin est proche et que tout cela s'avère illusoire, car la réalité va évidemment le rattraper. La dernière demi-heure, hein, qui est un basculement lié à un événement tragique, va revenir sur des rails plus conventionnels, récit d'une rédemption programmée. Mais bizarrement, cette rédemption se révèle bouleversante, agissant alors comme une sorte d'autoportrait d'un cinéaste qui tire sa révérence au 7e art, une volonté de terminer dans la dignité émane de cette partie qui pourrait, chez d'autres, friser l'indécence. La sûreté de la mise en scène, hein, une mise en scène gérée un peu à l'ancienne, s'appuyant sur un sens du timing et de l'espace, sur une minutie jusqu'au détail le plus insignifiant, élève ce film à la fois crépusculaire et solaire vers des sommets d'émotion. Et puis, ça, faut quand même le signaler, Clint Eastwood, acteur, a rarement été aussi touchant. Alors, légèrement diminué. Ça faisait un petit moment qu'il avait joué dans un film qui s'appelait Une Nouvelle Chance, je crois. Il trimballe en fait sa carcasse avec vraiment une classe incroyable. Cette confession intime, alors mélancolique et distanciée, rappelle à quel point Eastwood ne peut être enfermé dans une caricature quand il est vraiment en forme. Ici, il fait corps avec son sujet et on sort de la salle avec des larmes aux yeux, se disant que bordel, ce type était unique. Est toujours unique et on lui pardonne volontiers toutes ses errances. Une sorte de héros magnifique.
Eh bien, on va se remémorer sa filmographie avec 5 extraits. C'est le blind test de cette émission. Premier extrait, un drame.
Salut, Walt.
Je suis pas un de vos amis, alors pourquoi vous vous évertuez à m'appeler Walt?
Désolé, Monsieur Kowalski.
Qu'est-ce que vous colportez aujourd'hui, padre?
Rien du tout. Je voulais prendre de vos nouvelles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu à l'église.
Eh bien maintenant que vous avez fait votre bonne action, il ne vous reste plus qu'à continuer votre chemin.
Je voudrais qu'on discute, Monsieur Kowalski.
Dans une autre vie, mon petit.
Pourquoi? Vous avez un problème avec moi, Monsieur Kowalski?
Tentez pas le diable.
Allez-y, j'écoute.
Eh bien, je suis convaincu que vous n'êtes qu'un intello de 27 ans encore puceau qui adore tenir le crachoir à de vieilles bigotes superstitieuses en leur promettant l'éternité.
Voilà qui est dit, ça a été trouvé.
Et c'est Grand Torino.
Oui, film de 2009. Allez, on passe maintenant au film catastrophe détourné.
Il était évident que la situation était critique. Perdre la poussée des deux moteurs à si basse altitude, au-dessus d'une des zones de population les plus denses de la planète.
Mais choisir de se poser sur l'Hudson, tout de même, c'était un pari immense.
J'étais certain de réussir.
Ah oui?
Oui.
Quelle impression cela fait d'être fêté comme un héros?
J'ai pas l'impression d'être un héros. Je suis un homme comme un autre qui fait son travail.
L'homme de la situation dans la bonne situation.
Film très sec, même pas une heure et demie.
Sully.
Oui, avec Tom Hanks sur la catastrophe, enfin même pas la catastrophe puisque c'est un pilote d'avion qui a pu sauver tous ses passagers en se posant sur le Hudson à New York. Allez, un film noir maintenant.
Je parle d'Henry et George. Les hommes qui m'ont enlevé pendant 4 jours. Ils m'ont enfermé dans une cave infestée de rats sur un matelas pourri. Crois-moi, Céleste, ils ont pris leurs pieds. Et personne n'est venu sauver le pauvre Dave. Dave a dû faire comme s'il était quelqu'un d'autre.
Oh, c'était facile, peut-être.
Mystic River.
Oui, film de 2006 avec Sean Penn, Kevin Bacon et Tim Robbins, voix française qu'on écoutait. Allez, on passe maintenant au mélodrame.
Si j'ai fait quoi que ce soit
qui puisse te faire croire que ce qui vient de se passer entre nous n'a rien de nouveau pour moi. Il n'est qu'une habitude comme une autre. Alors je te fais mes excuses.
Qu'est-ce qui fait la différence, Robert ?
C'est simplement que quand je pense pourquoi je fais des photos, la seule raison qui me vient à l'idée, c'est que ça devait être pour faire mon chemin jusqu'ici.
Alors, un petit mélodrame.
Il y a
alors,
$1 million baby, mais...
Non, pas du tout.
Il y a l'échange.
Non, là, c'est une histoire d'amour.
Oui, c'est un mélodrame quand même, $1 million.
Alors, sur la route de Madison, parce qu'il faut se presser, 1995.
Impossible avec la voix, parce que j'ai vu ça qu'en version originale et je ne reconnais pas du
plus,
tout. C'est même pas la voix habituelle des Swedes.
Effectivement, tu as raison. C'est sans doute la voix qui nous vient du Québec. Maintenant, on passe au western quand même pour Clint Eastwood.
Comme je disais, vous n'avez pas l'air d'un tueur de sang-froid plus terrible que l'enfer.
Je le suis peut-être pas.
Oui, ben, oncle Pete a dit que vous étiez le plus dégueulasse de tous les salopards vivants et que si je voulais un partenaire pour tuer, vous étiez le pire. Ça voulait dire le meilleur. Compte tenu que vous êtes aussi froid qu'un glaçon et ne connaissez ni les états d'âme ni la peur.
Pete t'a dit ça.
Ah, ouais, c'est ce qu'il a dit. Je suis un putain de tueur moi-même, sauf que j'ai pas tué autant de gars que vous, ça c'est à cause de mon jeune âge.
Alors c'est impitoyable, hein, qui reste, à mon sens, le chef-d'œuvre de Clint Eastwood.
Eh ben, ce sera la conclusion de ce blind test autour de Clint Eastwood. Maintenant, eh bien, on se demande qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour vivre mieux. On se pose la question avec The Place.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors voilà un film qui aura du mal à laisser indifférent de par son scénario et dispositif. The Place de Paolo Genovese se déroule dans un seul lieu, un café. Et quand nous le quittons, eh bien, c'est pour en voir l'extérieur et les gens qui y pénètrent. Alors autant dire que l'univers visuel est restreint. Dans ce café, on y voit un homme en costard, barbu, la quarantaine, filant sur la cinquantaine, il est toujours assis au même endroit et à toute heure du jour et de la nuit, nous semble-t-il, il reçoit des personnes, 10 hommes et femmes qui s'assoient. Alors ces personnes parlent, se confient et finissent par accepter de relever des défis pour qu'en échange, eh bien, leur vie change et s'améliore. C'est un peu plus costaud que lorsque l'on va voir un psychologue, voire un astrologue. Quand le mystérieux donneur d'ordre doit lancer un défi, eh bien, il prend un lourd cahier et va alors demander à la personne qu'il a en face de lui, eh bien, de faire traverser la rue à 10 personnes, de faire en sorte que les voisins se séparent, de tuer une petite fille ou de voler eh bien, une grosse somme d'argent à une de ses amies. Mais il y a bien pire et on va garder le mystère sur ces défis parfois cruels et déroutants. Le point commun de ces défis, c'est qu'on ne peut demander et accomplir que des choses réalisables. À celui qui le rencontre pour la première fois incrédule et qui lui demande eh bien, les mots de passe pour pirater Amazon, notre homme mystérieux dit non. Il ne peut pas tout résoudre mais semble quand même avoir quelques facilités. Alors l'œuvre n'est pas originale, il s'agit d'une adaptation de la série télévisée britannique The Booth at the End. Et on y retrouve d'ailleurs les situations identiques parmi les clients, comme le père dont le fils est malade, ou moins commun, eh bien une religieuse qui veut à nouveau entendre Dieu. Le défi qu'on lui donne a d'ailleurs de quoi surprendre. Alors dans tous les cas, les défis à accomplir, s'ils sont possibles à réaliser, sont forcément délicats à accomplir. Le scénario de The Place repose là-dessus. Ce que l'homme mystérieux demande est parfois odieux moralement, et à tout moment, eh bien, il laisse le choix à ses clients de renoncer, ils le peuvent. Mais bien sûr, dans ces cas-là, ils ne pourront obtenir ni la guérison de leur fils, ni le retour de leur mari, ou celui de Dieu dans leur vie. Ainsi va la vie avec ses choix, sa conscience, son éthique. Cet homme mystérieux est un catalyseur de conscience. Il met ses clients en face de leurs choix et convoque leur libre arbitre. Chaque client, homme, femme, jeune, âgé, est amené à juger ses actes et ce qu'il est prêt à accomplir pour ce qu'il désire. Ses choix à faire amènent également le spectateur à se questionner. La tâche du réalisateur n'a pas été facile pour soutenir un suspense, mais il y parvient plutôt bien grâce à l'écriture, évidemment. L'ensemble est finement écrit sans que cela soit pesant. Les défis et tâches que doivent accomplir les clients sont une source de suspense, d'autant que les gestes de certains eh bien, ont des implications sur les défis que d'autres doivent accomplir et il s'agit quand même parfois de faire du mal aux autres, voire de tuer. Alors pour nous décontracter entre plusieurs clients, l'homme mystérieux est confronté à la patronne du bar qui est évidemment intriguée par son étrange client. Alors ce ne sont pas les séquences les plus intéressantes, mais malgré ses quelques défauts, The Place suscite un intérêt, notamment ce personnage intrigant capable d'apporter ce que les gens veulent pourvu qu'il se compromette, alors dont on ne sait si c'est le diable ou un ange accomplissant une mission. Son boulot est d'aider, il n'impose rien, propose, stimule en restant distant et monocorde. Dans ce huis clos, en gardant la même unité de temps et d'action, le réalisateur italien n'a d'autre arme que de filmer la parole et quelques gestes avec des chants contre chants. et de nourrir un vaste hors-champ avec les dialogues et les récits que font tous les clients de leurs actes, qu'ils soient vrais d'ailleurs ou faux. Cette mise en scène est malheureusement altérée, alors là, par des choix musicaux vraiment contestables, mais The Place demeure tout de même suffisamment prenant pour qu'on s'y attarde. Ce film est dans les salles depuis le 30 janvier, ce qui n'est pas le cas du Miyazaki, le premier film de Miyazaki qui était inédit dans les salles, qui est ressorti il y a peu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Tout a commencé il y a 10 ans environ. À cette époque, la famille royale était immensément riche. Ce qui n'était pas pour me déplaire, loin s'en faut. Et là, je viens de voir qu'une seule chose n'a pas changé. Le château du comte Cagliostro. J'aurais dû comprendre qu'il était derrière tout ça.
Alors, premier long métrage d'Hayao Miyazaki, Le château de Cagliostro, réalisé en 79, à une époque où les dessins animés japonais n'avaient pas vraiment la cote. C'est la déclinaison d'une série inspirée des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, Edgar Gentleman Cambrioleur. Cette série animée, diffusée à la télévision française au milieu des années 80 sur FR3, était marquée par un humour grivois et un érotisme discret auquel nos chères têtes blondes n'avaient pas l'habitude d'être confrontées. Alors, pour des raisons de droit, Lupin s'était transformé en Edgar pour la version française. Les aventures rocambolesques du cambrioleur prennent une autre allure sous le regard de Miyazaki, empreinte d'une poésie, d'une fantaisie qu'il allait développer au cours des années suivantes. Alors, le film démarre sous les chapeaux de roue, avec une course-poursuite endiablée où Edgar, assisté de ses fidèles complices, le mafieux et le samouraï, fuit la police pour avoir volé des billets qui s'avèrent être des faux. Alors, au cours de cette échappée, Edgar, par le pur des hasards, va faire la connaissance de la princesse Clarisse. Une rencontre de courte durée puisque cette dernière va être rattrapée par son destin et emmenée de force dans le château du comte de Cagliostro, cruel personnage qui retient prisonnière la jolie demoiselle dans le but de l'épouser. Et qui pourrait bien être aussi un trafiquant de faux billets.
Alors voici Cagliostro. Avant de travailler sur ce coup, je ne savais même pas que ce pays existait.
Et moi, je n'arrivais même pas à le trouver sur la carte, c'est vous dire.
C'est le plus petit qu'il y ait sur cette planète. Sa population est de 3500 habitants.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que la fausse monnaie est fabriquée ici?
J'ai éliminé tous les pays d'où elle ne pourrait pas venir. Et le seul qui soit resté, c'est celui-là.
Alors Edgar poursuit un autre but, plus prosaïque ou vénal, découvrir l'ancestral trésor du château, secret bien gardé, dont seule Clarisse aurait la clé. Edgar, fidèle à sa réputation, y voit une occasion en or pour mettre la main sur les biens précieux du comte, mais aussi voler le cœur de la princesse. Cette histoire, somme toute classique, est menée à un rythme virevoltant, prouvant déjà la capacité du japonais à nous embarquer dans des univers délirants, effleurant déjà le merveilleux. Alors, s'éloignant de la veine contemplative de ses chefs-d'œuvre tardifs, le château de Cagliostro peut être perçu comme le brouillon de ses films les plus débridés et ludiques, ces mille feuilles débordant d'imagination que sont Le Voyage de Chihiro ou Le Château dans le Ciel. Sauf que les éléments fantastiques ne sont jamais explicites, le cadre du récit étant ancré dans une certaine réalité. Les magnifiques décors du château rendent aussi un hommage assez vibrant, très beau, à Paul Grimaud, qui réalise d'ailleurs la même année son unique long-métrage, Le Roi et l'Oiseau. Les ressemblances sont trop frappantes pour ne pas saisir à quel point Miyazaki connaissait le travail du maître de l'animation française. Peuplé de personnages croustillants et peu avares en rebondissements, ce manga désuet et assez atypique pour l'époque baigne dans une ambiance joyeusement irréelle, presque surréaliste, dégageant un charme fou. L'animation assez rudimentaire peut aujourd'hui surprendre, voire irriter, mais permet aussi d'admirer sereinement la qualité en germe d'un graphisme unique qui allait littéralement exploser quelques années plus tard. Le charme de Cagliostro s'avère d'être un dessin animé singulier, destiné aux petits et aux grands, assez universel, d'une virtuosité narrative assez impressionnante. À ses débuts, Miyazaki ne délivrait pas encore des fables métaphoriques remplies de sous-textes divers, mais abordait un genre, ici on va dire la comédie policière, de manière on va dire très premier degré, rappelant parfois les aventures de notre bébelle nationale dans les tribulations d'un chinois en Chine, ce que les dialogues savoureux et souvent très drôles tentent constamment à confirmer. Le flegme d'Edgar Lupin n'est pas étranger à la réussite d'un manga revigorant qui dépasse le simple objet de curiosité.
Et puis, si on commence par le début, pour certains enfants ou même des adultes, après, il y a la longue suite de films, puisqu'il
Dès le suivant, après le château de Cagliostro, il va réaliser certainement l'un de ses chefs-d'œuvre, qui est Nausicaa, en 84. Donc, il tournera au départ assez tous les 4-5 ans. Il aura un rythme plus important une fois qu'il sera reconnu, je pense.
Et puis après, il y a des chances de devenir accro.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh,
C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule.
La semaine prochaine, on aura vu Nicky Larson, Ulysse et Mona notamment, et bon, il y aura plein d'autres films.
Tout ce qu'il me reste de La Révolution, premier film de Judy Davis.